Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, on ne quitte pas ça. Des questions et des préoccupations, faites-les nous parvenir au 081 890 63 94 pour les appels ou encore nous écrire à service@radiocapi.net. Nous avons déjà dans ce studio pour le premier sujet autour de l'hygiène de vie adoptée en cas de co-infection VIH-SIDA tuberculose. Docteur Jean-Paul Okiaka, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Docteur, la première question, c'est quoi la co-infection VIH-SIDA tuberculose?
Merci. La co-infection VIH-tuberculose, en fait, la cohabitation entre le virus de la le virus du SIDA et les bactéries de la tuberculose chez une même personne.
Voilà. Est-ce que la tuberculose est indispensablement associée à une infection au VIH-SIDA? Donc, autrement dit, quand quelqu'un est infecté au VIH-SIDA, donc, est-ce qu'il peut être accompagné directement de la tuberculose? Forcément.
Pas forcément. Comme vous savez, le VIH-SIDA, c'est une maladie de déficience immunitaire. Et que la tuberculose, c'est en fait une maladie qu'on attrape au décours de contact avec le BK. Et presque tout le monde a déjà respiré les microbes de la tuberculose, mais la défense immunitaire du corps empêche que ces microbes se multiplient pour passer de la phase latente à la phase maladie. Mais avec le VIH qui a déjà détruit l'immunité, la personne qui a le BK dormant dans son corps est exposée à pouvoir passer du stade de BK latent au stade de tuberculose maladie.
Alors, si je comprends bien, la tuberculose, par rapport au VIH-SIDA, c'est une maladie opportuniste.
Oui, avant, on l'appelait comme ça, une maladie opportuniste. Mais maintenant, compte tenu du dégât que ce couple-là cause sur l'être humain, on parle plus d'une maladie révélatrice, si vous voulez. Parce que, en fait, à partir de la tuberculose, de manière systématique, on recherche maintenant l'infection à VIH. Donc, en d'autres termes, toute personne infectée par la tuberculose, dans les stratégies actuelles, devra absolument se faire dépister du VIH pour qu'on sache si elle est co-infectée ou non. Parce que si elle est co-infectée, le traitement, la prise en charge est un peu différente de celle d'une personne non co-infectée.
Voilà. Quelle est alors l'incidence de cette co-infection? Autrement dit, quel est l'impact? L'impact peut être positif ou négatif?
C'est comme j'ai dit tout à l'heure, actuellement, l'OMS décrit 30% des malades tuberculés sont co-infectés. 30%. Et le dégât, c'est là où le décès qui survient chez les personnes vivant avec le VIH est attribuable à la tuberculose à près de 13%. Donc 13% des personnes vivant avec le SIDA meurent de la tuberculose. Et notre travail est d'éviter justement ce genre de décès parce que les médicaments sont là et on demande simplement aux personnes de se faire dépister. Si jamais ils sont tuberculeux, de se faire découper de VIH, mais aussi les personnes qui savent qu'ils vivent avec le virus, donc comme on les appelle, les personnes vivant avec le virus du SIDA, eux aussi doivent se faire dépister de la tuberculose.
Alors, selon certains experts, la tuberculose aggrave l'infection au VIH. Comment?
Oui, bien sûr, c'est comme je vous ai dit, c'est en fait un cercle vicieux. L'un aggrave et puis l'autre aggrave aussi. Donc, la tuberculose, c'est...
Est-ce qu'à ce niveau, on peut parler de la surinfection?
Non, non, non. C'est pas la surinfection, parce que ce sont deux maladies différentes. C'est pas la surinfection. Il y a d'abord le passage de la tuberculose, forme latente à la tuberculose maladie, grâce, peut-être c'est pas les termes, c'est-à-dire la présence du virus qui a détruit l'immunité pousse à ce passage-là. Donc, à ce titre, nous dirons que le sida augmente le nombre de tuberculés. De même, la tuberculose
augmente.
Non, la tuberculose n'augmente pas, mais augmente dans le sens de quand on est tuberculé et qu'on fait les dépistages, si on est co-infecté, donc ça augmente le nombre de co-infectés. En fait, la tuberculose permet à ce qu'on découvre beaucoup de co-infectés, puisque, comme vous le savez, nous sommes en train de demander toujours à toute personne, à chacun de nous, de se faire dépister du VIH pour savoir notre état sérologique. Mais beaucoup n'ont pas encore compris ça, et donc il est important que chacun puisse comprendre son statut sérologique. Alors, si on connaît le statut sérologique, il y a une prise en charge pour ceux qui vivent avec le VIH, et une prise en charge qui est mise en place pour justement éviter, prévenir des maladies comme la tuberculose.
Et vous avez parlé tantôt de la tuberculose comme une maladie révélatrice. Donc, c'est ce qui revient à dire, quand vous faites une crise de la tuberculose, et ça, c'est une piste que le médecin a pour diagnostiquer, aller encore plus loin avec les examens.
Entre autres, parce que aujourd'hui, le programme de lutte contre la tuberculose recommande chez toute personne qui est affectée de la tuberculose de pouvoir faire un dépistage du VIH. Et c'est ce que nous faisons. Les statistiques dans notre pays montrent que les malades tuberculés, près de 60% acceptent de faire cet examen-là, et que les résultats montrent aussi clairement que nous sommes aux alentours de 18, 20% des personnes co-infectées.
Voilà, j'imagine que, comme vous venez de le dire d'ailleurs, la prise en charge médicale en cas de co-infection doit être différente de celle qui concerne justement quelqu'un qui est simplement infecté au VIH-Sida.
Bon, je dirais plutôt c'est différent par rapport à une personne qui n'a que la tuberculose. Parce qu'une personne qui vit avec le VIH et qui a en plus la tuberculose, il y a des mesures de prévention, de la dissémination du VIH à partir de la personne même. Cela veut dire que la personne doit conserver certaines mesures d'hygiène et de protection, c'est-à-dire le port des préservatifs pour ne pas contaminer les autres. Donc tout ce qu'il y a comme mesures qui entourent la lutte contre l'expansion du VIH. En plus, il reçoit les médicaments antituberculeux. Parce qu'en fait, dès que vous êtes détecté comme étant co-infecté, il y a une priorité, c'est mettre la personne sous antituberculé pour que la personne puisse guérir rapidement. Et après, il y a d'autres mesures qu'on doit mettre en place pour cette personne-là. Ce qui n'est pas le cas pour la tuberculose maladie seule.
Voilà, on va revenir sur l'hygiène de vie à adopter en cas de co-infection. Il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir leur réaction au 081 890 63 94.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end souvenir avec moi, samedi dimanche de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Gérardin, vous êtes à Béni. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, juste, j'aimerais dire ceci. il y a souvent les gens qui disent que donner les antirétrovirus, le fait d'encourager la sexualité, qu'est-ce que vous allez conseiller à ces gens? La deuxième préoccupation est de savoir les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le VIH-Sida. Est-ce que le gouvernement essaie de soutenir les organismes nationaux et internationaux qui luttent contre le sida? Et c'est dans quel anglais? C'est cela mes deux préoccupations.
Merci, Jardin. Et un coucou à tous ceux qui nous suivent à Béni. Le docteur Jean-Paul Okiata, en fait, on parle de sida. Vous avez compris la préoccupation de Jardin?
Oui, je salue l'auditeur. Je pense que les médicaments sont là pour nous aider à guérir les maladies qui nous envahissent. Bien sûr, quand quelqu'un est malade, il faut lui donner le médicament. Les ARV sont des médicaments qu'on doit donner aux personnes vivant avec le VIH, aux personnes des maladies sida. Mais cela ne doit pas encourager les personnes, d'abord, qui savent que les médicaments existent et qu'ils doivent avoir des habitudes non...
Enfin, la délinquance sexuelle ou les vagabondages, voilà.
Voilà, vous avez trouvé les termes. Donc, nous n'encourageons pas ce genre d'habitudes, au contraire. Nous disons que les médicaments sont là pour les curatifs, mais il y a la prévention qui a en fait toutes ces mesures-là, éviter les délinquances sexuelles, éviter d'utiliser les objets tranchants entre les individus, et conserver les règles d'hygiène, par exemple. Il faut, quand vous allez chez le coiffeur, il faut avoir votre tondeuse à vous. À la maison, il faut éviter que les enfants se partagent
des lignes, des
brosses à dents, tout ça là. Donc, je crois que sa deuxième préoccupation, c'est par rapport au gouvernement. Mm-hmm. Oui, le gouvernement fait beaucoup de choses pour la lutte contre les sida, tout comme pour la lutte contre la...
Bien entendu, avec des partenaires aussi traditionnels,
bien sûr.
Qui viennent à l'appui.
Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Et si le gouvernement n'accepte pas qu'ils viennent, ils ne seront pas venus. Mm-hmm. Donc, ils viennent parce que le gouvernement a besoin d'eux, et puis le gouvernement met des moyens pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie.
Roscan Kambalé, vous êtes à Kisangani, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Café.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai deux préoccupations. La première, j'aimerais que l'invité puisse nous dire si quelqu'un est porteur d'une maladie, doit nécessairement être porteur de l'autre. Et la deuxième préoccupation, j'aimerais savoir si, du moins nous connaissons que la tuberculose est curable. Si, dans le cas de la co-infection, est-ce qu'on peut soigner la tuberculose jusqu'à l'éradiquer?
Merci beaucoup, Roston. Docteur Roqueta.
Oui, nous remercions l'auditeur.
Nous allons revenir à la question que vous venez d'aller commencer là, sur l'entretien. Forcément, quelqu'un qui souffre du sida peut faire une crise de la tuberculose?
Non, pas forcément, comme je disais, pas forcément. Mais il y a cette possibilité-là qu'une personne qui vit avec le virus du sida puisse faire la tuberculose. Tout comme quelqu'un qui est tuberculeuse, donc qui est malade de la tuberculose, puisse contracter le virus du sida et devenir TBD. Donc, ce n'est pas une fatalité,
cette cohabitation.
Non. Et puis bon, les médicaments antituberculiques que nous disposons guérissent les malades, qu'ils soient VIH positifs, qu'ils soient VIH négatifs. Donc les médicaments sont efficaces, c'est qu'ils sont simplement de respecter les instructions et les recommandations des infirmiers, des médecins qui suivent les malades. Les malades, généralement, ils guérissent sans problème.
Donc, quand il y a tuberculose, quand il y a co-infection, donc on peut guérir, si j'ai bien compris la préoccupation de l'auditeur, parce qu'on peut guérir de la tuberculose, en tout cas parce qu'on sait qu'on vit avec le virus, le sida, c'est une maladie à vie, mais la tuberculose, parce qu'il est curable selon lui, donc on peut en maîtriser.
Et ça, pour les cas. Ça, selon lui, c'est une évidence. La tuberculose, c'est une maladie guérissable. Et qu'on soit VIH positif ou non, si on suit correctement les traitements, la tuberculose eh bien, la personne, à l'issue du traitement, est déclarée guérie, et guérie de cette maladie, les symptômes sont partis, et puis il reprend sa vie normale, bien qu'il vit avec le virus, et là, ce sera le travail de nos collègues du programme de lutte contre le sida, dans le suivi de la personne.
Albert Moukendissaï, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental, bonjour.
Non.
Albert, bonjour.
Bonjour, bonjour, je suis à Mujima et à Kasaï oriental.
Au Kasaï oriental. Voilà, Albert, quelle est votre préoccupation?
Oui, je voulais poser à l'invité que... Oui, je dis ceci. Je peux passer au centre de dépistage volontaire et qu'on me dit que non, je suis séronégatif. Maintenant, je peux rester pendant un ou deux mois et si j'ai l'envie de repasser là-bas, on me dit que non, je suis séronégatif. Maintenant, je voulais demander à l'invité que la maladie là, du sida peut apparaître dans combien de mois, combien de jours, bien combien d'années. C'est ça ma préoccupation.
Merci Albert. Là, je crois qu'il faut disons à la période d'incubation. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ou la manifestation pour qu'on remarque les premiers signes. C'est quand exactement?
Bon, je crois que là, il fait allusion à ce que nous appelons la période fenêtre. Quand on contracte le virus avant la manifestation clinique ou même infraclinique, il y a une période fenêtre qui se manifeste. Et c'est une moyenne d'ailleurs qu'on donne, c'est une moyenne. C'est comme ça qu'on demande toujours, quand on a fait un examen de dépistage de VIH,
six mois après,
on revient faire. Parce que là, on veut un peu capitaliser cette période fenêtre pour être sûr que la personne est vite avec le VIH. Il est important de dire, quand vous avez fait un examen, maintenant, durant la période de 6 mois, il faudrait que vous ayez un comportement qui ne vous expose pas à attraper le virus. Parce que si vous êtes négatif aujourd'hui et que dans 2 mois vous vous comportez de sorte que vous pouvez attraper le virus, quand vous faites l'examen 6 mois après, donc c'est-à-dire 4 mois après, en comptant en comptant la période où vous êtes comporté pas très très bien, l'examen risque d'être négatif. Et cela ne signifie pas que vous êtes exempté. La maladie, parce que il y a toujours la période de fenêtre. Donc, il est recommandé à ce que les gens observent les mesures d'hygiène et les recommandations qu'on donne pour éviter d'attraper les sida. Et là, je voudrais insister, si vous me permettez, il est utile pour chacun de pouvoir faire un effort de connaître son statut sérologique. Et pour les tuberculés, toute personne qui est malade de la tuberculose, il est recommandé que cette personne aussi connaisse son statut sérologique pour permettre aux infirmiers, aux médecins de le prendre en charge correctement.
081 890 63 94 pour les appels. Et si vous pouvez, quand vous nous écrivez sur les lettres, donc écrivez-nous à service@radiocapi.net. Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 10h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi et vous qui nous rejoignez, bienvenue à Okapi Service. Nous avons des auditeurs qui ont posté leurs réactions sur Facebook. Nous avons Hervé Chalis qui nous dit avoir une alimentation équilibrée, et ça fait peur, hein, surtout quand on connaît son état sérologique, parce que là, ça peut aggraver la maladie, et surtout que les microbes se nourrissent des protéines de l'organisme. Hervé, qui pense à ça? Est-ce que c'est à tort ou à raison?
moi je dirais pas qu'à tort, mais je dirais que je préciserais que justement on recommande que les gens prennent une alimentation équilibrée pour la croissance du corps et pour une vie, une bonne vie. Donc ça ne peut pas être un moyen pour le virus de pouvoir se multiplier un peu plus lorsque quelqu'un mange bien. Au contraire, quand on mange équilibré et bien, donc on lutte efficacement contre les microbes qui nous envahissent ces jours et nuits.
Ernest Lukumwena, Kalala de Kalemi, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pire en cas de co-infection? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit qu'il faut adopter il y a des mesures d'hygiène qu'il faudrait bien adopter pour vivre, c'est ça?
Oui, j'ai dit que quand en cas de co-infection, il faut d'abord suivre les traitements de la tuberculose correctement jusqu'à la fin pour guérir de la tuberculose. Et puis, il y a des mesures qu'il faut prendre pour éviter de propager la maladie, c'est-à-dire le VIH chez d'autres personnes. Entre autres, nous avons parlé des problèmes
d'usage,
la fidélité des couples, l'utilisation des objets tranchants de manière personnelle pour éviter que les autres puissent être contractent la maladie.
Alors, aujourd'hui, vous avez parlé, docteur, de 30% des cas de tuberculé qui sont en fait pas infectés. Selon les études,
ça c'est selon les estimations de l'OMS et à travers le monde.
Et en RDC, et quelle est la situation épidémiologique des cas de co-infection?
En RDC, les cas, notre moyenne est entre 20% et 18%.
Ben alors, la prise en charge, quelle est-il de la prise en charge?
La prise en charge.
Est-ce que ça se fait au niveau de la Fondation Damiens ou bien c'est pratiquement vous partagez? Bon, comment se fait, comment c'est d'ailleurs votre collaboration avec le programme de lutte contre le VIH-SIDA et aussi le programme national de lutte contre la tuberculose?
Bon, les deux programmes, national contre la tuberculose et celui contre le SIDA, sont les programmes du ministère de la Santé. Donc nous avons une collaboration étroite, et on a un forum où nous discutons des politiques nationales sur la co-infection et comment est-ce qu'on doit former les prestataires, qui va apporter les tests, qui doit apporter les ARV, qui doit apporter les antituberculés, comment on doit évaluer cette lutte à travers les pays. Alors, avec nos partenaires, je suis heureux que vous citez Action Damier, qui est en fait notre partenaire traditionnel. Action Damier, il n'y a pas de centre de santé où on prend les gens en charge. Mais Action Damier appuie les programmes de lutte contre la tuberculose, comme les PNLS aussi a des partenaires qui l'appuient dans la lutte contre
le mondial,
le mondial et tout le monde là. Donc, la lutte contre ces deux maladies se font de manière intégrée dans les structures de soins. Donc, au niveau des structures de soins, donc les centres de santé, les hôpitaux, où une personne qui vient avec des signes de la tuberculose, notamment une toux traînante, la fièvre et l'amaigrissement, les prestataires soumettent à un examen de bactéries, donc un examen de laboratoire où il donne des crachats pour voir si il a des microbes de la tuberculose, et puis on fait des examens de radio, il y a une batterie d'examens qu'on fait. Si la personne est déclarée tuberculeuse, on discute avec lui et on lui propose l'examen de dépistage du VIH. Il faut que la personne consente. Si elle consente, on fait l'examen, et si elle est positive, si l'examen est positif, on le met d'abord sous traitement anti-tuberculé, et puis on envisage la possibilité de le mettre sous ARV, donc le traitement anti-rétroviraux, et on les suit.
Il peut arriver que la tuberculose soit vraiment à un stade final, quoi. On découvre ça en retard, ça deviendrait un peu compliqué.
Justement, c'est ça notre rôle, de demander à la communauté de consulter le plus tôt possible dès qu'ils ressentent les signes qui ont...
Parce que c'est le temps, les gens négligent un peu, bon, pour les dépistages volontaires du sida, il y a quand même eu une amélioration, les gens y vont. Mais pour les, la tuberculose, quand on sait que bon, on en guérit, les gens oublient, ils font pas de dépistage au quotidien.
C'est là où nous saluons votre professionnalisme, parce que à travers la radio Okapi et d'autres médias, on revient un peu sur ça pour diffuser, sensibiliser les gens par rapport aux signes de la tuberculose et leur demander de consulter un centre de santé ou un hôpital. Donc, je reviens là-dessus. D'ici donc le 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Donc, on va y revenir pour expliquer à la communauté que la tuberculose, c'est un problème de santé publique dans notre pays, comme à travers le monde. Notre pays occupe actuellement la dixième place parmi les 22 pays qui supportent 80% de la charge de la tuberculose au monde. Donc, pour ce faire, tout le monde doit s'investir à lutter efficacement contre cette maladie. La communauté doit orienter toute personne qui vit à côté d'elle, donc dans les collègues de service, dans la famille, à l'école, et qui pousse depuis un certain temps vers le centre de santé et les professionnels.
Même quand vous vivez apparemment en bonne santé, il faut toujours vous faire dépister parce qu'on ne sait jamais.
Oui, quand vous vivez, alors vous dites vous-même apparemment en bonne santé.
C'est pas découvert sans examen.
Donc ce qui est important à dire, que la tuberculose est guérissable. Les gens qui ont des signes évocateurs de la tuberculose devraient aller se faire consulter et les services en place.
Ben alors, si on peut quand même revenir, rappeler au commun des mortels, et surtout à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, on parle souvent de la toux. Après 8 jours, il faut rejoindre le centre de santé le plus proche de la maison. 15 semaines, 2 semaines après, bon, je ne sais pas.
Vous le connaissez parfaitement bien.
Tout à fait.
Donc, une personne qui a déjà une semaine de toux.
Mais quel genre de toux, tu sais, ou n'importe quel toux?
Bon, vous savez, la diversité humaine fait que quand on dit la toux, il y a des gens qui peuvent avoir la toux productive. Il y en a d'autres qui, bon, ils ont l'habitude de prendre des médicaments eux-mêmes et qui transforment un peu cette variété de toux. Mais nous, disons toute personne qui tousse. Tousser, c'est pas bon. Quand vous toussez, vous devez aller à l'hôpital. Et c'est ces professionnels de santé qui ont étudié et qui sont formés pour ça, sauront vous dire, ça c'est la toux de la tuberculose, ça c'est la toux due à la grippe, et ça c'est la toux parce que vous avez mal ingurgité quelque chose et puis il y a eu une allergie et tout ça. Donc c'est mieux que quand quelqu'un tousse déjà, qu'il aille à l'hôpital pour que ces professionnels puissent faire leur travail et contribuer justement au contrôle de la tuberculose.
Nous avons deux dernières interventions. Jean-Claude Tessa, qui nous appelle de Bougnin, la professeure Létale, Augustin Sendé, de Béni, au Nord-Kivu. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude Tessa. Alors, prenons Augustin Sendé, vous êtes à Béni. Bonjour Augustin.
Oui, bonjour Monsieur le Jeanette, et puis bonjour à notre invité du jour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Je voulais juste demander à notre docteur, étant que spécialiste en matière, et puis quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui peut m'expliquer que il y a donc la différence qu'y a-t-il entre être séropositif et séronégatif. Il peut m'expliquer clairement de ça, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Augustin. Docteur Augustin.
Bon, une personne séropositive, donc comme on dit, une personne vivant avec le virus, c'est une
après,
personne.
Après, ça n'est pas le virus, hein?
Non,
le virus.
Si on parle de la sida. Donc, c'est quelqu'un qui a dans son sang les anticorps qui montrent clairement qu'il était en contact avec le virus et que le virus demeure dans son corps. Alors, le négatif, c'est celui qui. qui, quand on fait l'examen, on ne trouve rien comme trace d'anticorps qui était en contact avec le virus.
Docteur, on va terminer avec vous. En cas de co-infection, on retient qu'il n'y a pas d'obtenir des vis appropriées pour éviter qu'il y ait des problèmes. Vous avez évoqué notamment le port des préservatifs. Pendant cette occasion pour ne pas...
C'est tout la fidélité.
La fidélité, voilà. Et puis, pendant ce temps, quand, en cas de co-infection, prendre des médicaments antituberculeux, c'est important, et quoi encore?
Oui, prendre des médicaments antituberculeux, et souvent on met ces personnes-là sous le médicament que nous appelons le cotrimoxazole pour empêcher la personne de pouvoir être attaquée par d'autres microbes, parce qu'il a une immunité qui est faible, donc il est exposé à beaucoup d'autres microbes.
L'idéal, c'est de se faire dépister à temps.
Bien sûr.
Merci, docteur Jean-Paul Okiata, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. À très bientôt.
Merci.